Bonjour à tous. Ça fait un bon moment que je ne viens pas ici et je remercie Dieu qui m'a permis d'être ici aujourd'hui pour pouvoir partager sa parole avec vous. Pour commencer ce message, je recommencerai avec une activité que j'ai faite le mois passé avec mon fils. À la maison, on a eu un petit souci de toilette qui était abîmée. J'ai dit à mon fils, allons ensemble chez Gamma, on va chercher quelques matériels pour venir et réparer cette toilette. En disant comme ça, moi, j'ai dit, il est temps d'associer mon fils à ce que je fais chaque jour pour que lui aussi puisse apprendre. On est parti, on a acheté des pièces qui nous manquaient. Arrivé à la maison, je ne suis pas quelqu'un qui sait bien regarder le plan. Je regarde, je trouve que pour moi, il y a des pièces qui manquent. Mon fils me dit, papa, non, non, il n'y a pas de vis qui manque. Celui-là, pour moi, il y a un vis. Pour moi, je disais, il fallait qu'il y ait deux. Mon fils a dit, non, 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 il faut qu'il y ait un, parce que celui-là, c'est la clé qui nous permet de fixer d'autres vis qu'on nous a données. J'ai dit, ah, je commence à voir que les enfants peuvent nous apprendre quelque chose. Une fois, on les associe dans ce qu'on fait. Et je l'ai laissé faire. Après, il a monté tout seul. Et j'étais étonné de voir comment les enfants, si on les donne l'occasion, ils peuvent faire certaines choses d'une façon inattendue. Ce qui m'a surpris aussi, c'est il y a 2 semaines, j'étais en train de monter les étagères et je les mets à l'envers. Et mon fils me vient et me dit, papa, tu t'es trompé, tu les as mis à l'envers. Parce que quand je voulais fixer les étiquettes tombaient. Il a réarrangé les choses et quand on a fixé les étiquettes, ça a pris. J'ai dit, ah, je trouvais que toujours les enfants peuvent nous apprendre quelque chose. Mais tout ça, c'est parce que je ne savais pas vraiment bien regarder le plan. Tout ça nous amène à la semaine de la création. Quand on voit comment Dieu il a fait le plan quand il organisait la création, on peut voir que tout ce que Dieu fait, le fait en ordre. Dans notre groupe de Grammont, on a une habitude, comme on n'est pas nombreux, on discute. C'est pour ça que je vais vous solliciter, je vais vous demander pour que vous puissiez m'aider pour comprendre ce que j'ai envie de partager avec vous. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui vont m'apprendre quelque chose. Comme vous le savez, Dieu a créé tout pendant les 7 jours. Est-ce qu'il y a quelqu'un de bonne volonté qui peut me dire qu'est-ce que Dieu a créé le premier jour? Pardon? La lumière. Merci beaucoup. C'est beau, c'est une bonne réponse. Mais oui, c'est la lumière. Permettez-moi d'aller dans le désordre. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que Dieu a créé le 4e jour? Oui? Pardon? Le 4e jour, vous pouvez tricher, regardez, vous pouvez tricher pour me répondre. C'est Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 1, verset 9 à 19. Essayez de regarder là-bas, vous pourrez me trouver une réponse. 4e jour. Merci. Utilisez peut-être la Bible, ce que vous dites c'est vrai, mais je mets quelques détails, oui. Je me lance, je dis le soleil. Quelqu'un peut compléter? La lune, ok? Les étoiles. Alors, premier jour, Dieu créa la lumière. Quatrième jour, le soleil, la lune, les étoiles. C'est-à-dire, le premier jour va avec quatrième jour. Deuxième jour, qu'est-ce que Dieu a créé? Moi je dis, si vous regardez bien, vous allez trouver qu'il a créé l'étendue, qu'il a appelé le ciel. Et il a créé aussi la mer. C'est-à-dire, il y a le ciel et la mer. Alors, ça c'est le deuxième jour. Alors au cinquième jour, qu'est-ce que Dieu a fait au cinquième jour? Merci. C'est-à-dire, il y a la mer qui est déjà là, elle va remplir les poissons et tous les animaux qui doivent vivre dans la mer. Et le ciel, il va émettre quoi? Les oiseaux. Voilà. C'est-à-dire, ce que Dieu a fait, il y avait une logique. Continuons le troisième jour. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il y a la terre et la végétation. Cette terre qui est remplie de la végétation servira à quoi? Sixième jour. L'homme en aura besoin pour la nourriture et les animaux en aura besoin aussi pour vivre. C'est-à-dire que si on regarde bien, les trois premiers jours, c'est vraiment la base pour le quatrième, le cinquième ou le sixième jour. Alors, équation difficile. Septième jour. Si vous regardez bien, est-ce que la Bible ne nous dit pas que Dieu a créé le sabbat? Regardez bien dans votre Bible, vous me dites quoi? Septième jour. Est-ce que la Bible ne nous dit pas qu'il y a... C'est une question que je pose. C'est pour ça que je dis, vous pouvez aussi m'aider pour... Pardon? Avant de sanctifier, qu'est-ce qu'il y a? Avant de se reposer, qu'est-ce qu'il y a? Il achève. Le septième jour, il dit achève. Est-ce que quand on achève, on ne fait rien? C'est-à-dire, il a créé le sabbat. Le septième jour. En achevant, c'était le moment de créer le sabbat. Alors, comme vous avez bien dit, Dieu se reposant, qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a béni encore, sanctifié. Ok. Merci beaucoup pour les réponses. Et une autre chose... Quand on dit que Dieu a sanctifié le sabbat, qu'est-ce que ça veut dire? On a vu que chaque jour, que ce soit le premier jour était associé au quatrième jour, deuxième jour associé au cinquième jour, troisième jour associé au sixième jour, et le sabbat était associé. Là, quand Dieu a créé le sabbat, c'est Dieu, qu'est-ce qu'il a fait encore? Est-ce qu'il a associé le sabbat avec quelque chose? On a vu qu'il s'est reposé, il a béni et il le sanctifia. Qu'est-ce que Dieu a fait de spécial pour cette journée-là? Il a mis à part. Oui. Il a mis à part. Qu'est-ce que ça veut dire mettre à part? Réservé pour quelle raison? C'est réservé pour servir à quoi? Vous m'excusez parce que je préfère de vous montrer ce comment nous faisons. Bon, c'est vrai que ce n'est pas une prédication comme on le fait d'une façon normale, mais on discute et on apprend aussi ensemble. Ce qui est intéressant ici, quand on dit que Dieu a sanctifié le jour du sabbat, pour que ça soit différent avec les autres moments, c'est le jour où Dieu a dit, ou bien Dieu a dit, je me reçois, je suis présent pour ce jour-là. C'est-à-dire, Dieu assure sa présence. C'est ce qui fait que cette journée était différente des autres, c'est le moment où Dieu avait consacré pour être avec l'homme. C'est surtout la présence de Dieu qui compte ici. C'est la présence de Dieu qui compte, qui fait que ça soit différent. Rappelez-vous le moment de quand Moïse était dans le désert, était en train de garder le troupeau. Moïse a vu quelque chose. Quelqu'un peut me rappeler le miracle qu'il a vu? Pardon? Ça se consomme. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Pour quelle raison? Pardon? Est saint. Merci pour la réponse. Est-ce que son lieu avant, est-ce que son lieu, qu'est-ce qui le rend saint? Voilà, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui fait que ce lieu soit un lieu saint. Ce que nous pouvons tout simplement comprendre à travers de la semaine de la création, surtout le sabbat, c'est que c'est le moment où Dieu dit, j'aime rencontrer, j'aime passer un moment avec l'homme que j'ai créé. C'est ça qui est différent des autres jours. C'est ça qui fait le sabbat est saint. C'est parce que Dieu dit, est présent. Comme il a dit à Moïse, enlève tes chaussures parce que le lieu là où tu es, c'est le lieu saint. Parce que Dieu était là. C'est tout simplement parce que la présence de Dieu marque une différence. Sinon, s'il n'y a pas la présence de Dieu avec nous, souvent nous disons le temple de Dieu, l'église, c'est le lieu saint, il faut être correct, il faut être respectueux. S'il n'y a pas la présence de Dieu, c'est un lieu comme les autres. C'est saint parce que Dieu manifeste sa présence à cet endroit-là. J'ai voulu prendre un exemple de Jacob. Comme vous le savez, vous connaissez bien l'histoire de Jacob. comment Jacob a lésé son frère à l'aide de sa maman. Vous savez comment Jacob a pris fuite. Vous savez comment Jacob a été, je dirais, chez quelqu'un qui allait devenir son bon père, comment il était berger de troupeaux. Vous savez qu'il y a un moment qui est venu où Jacob a dit, oh, maintenant je me sens adulte, c'est le moment de me marier. Quand Jacob voulait avoir une femme, il a fini à avoir combien? Pardon? Qui dit mieux? Certains disent 2, les autres disent 4. Précisément, Jacob a eu des enfants avec combien de femmes? Okay, voilà. Au lieu d'avoir une femme, il a fini par 4. Ici, Jacob arrive au moment où il devrait rentrer. C'est le moment où Dieu lui dit, Jacob, à la maison, rentre. Jacob va dire, comme tu le dis, je vais rentrer. Le chapitre, peut-être avant d'arriver au Genèse chapitre 32, j'aimerais quand même partager 3 éléments que je trouve importants quand on est en présence de Dieu ou bien quand on rencontre Dieu. Quand on rencontre Dieu, on est différent. Quand on rencontre Dieu, on n'est plus la même personne. On change. Quand on rencontre Dieu, on se sent bien. Mais tout dépend de votre ou de notre état d'esprit. Une personne bien disposée, une personne qui a un cœur réceptif, quand il rencontre vraiment Dieu, il va être différent. Il va changer et il ne sera pas la même personne. On va prendre l'exemple de Jacob. L'exemple de Jacob, Genèse chapitre 32. On commencera par le verset 1. Jacob poursuit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En commençant comme ça, la lecture, ça démarre bien. Il commence le voyage et les anges de Dieu sont là. Ils le rencontrent. Alors, le verset 2. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna ce lieu le nom de Manaïm. Ici, il dit, ici vraiment c'est la présence de Dieu. Ici c'est le camp de Dieu. Quand il rencontre ces anges-là, il est content et il commence, je dirais, à être surpris d'une façon agréable. Mais malgré ce rencontre, Jacob n'était pas tranquille. Il n'avait pas l'esprit, je dirais, disposé. Verset 3. Jacob envoya devant lui les messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans le territoire d'Edom. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné à Laban et je suis resté jusqu'à présent. Et c'est ce qu'on remarque, c'est que Jacob, il est en train de préparer une rencontre. Il est en train de préparer un rencontre parce que c'est comme s'il se rapprochait de quelque chose. C'est comme s'il soupçonnait le danger. Mais il commence d'abord à envoyer quelques émissaires pour tenter le terrain, pour voir s'il y a vraiment un danger. Ces émissaires sont partis pour voir son frère Ésaü. Au verset 6, les messagers revirent auprès de Jacob en disant, « Nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. » Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Jacob? Quand il te rapproche quelque chose et qu'on t'apprend que la personne à qui tu as lésé est en train de venir te rencontrer avec 400 hommes. Ici, on est combien? En général, quand Claude compte, souvent on est entre 100 et 150. Imaginez que nous tous, plus d'autres trois groupes comme nous, on va rencontrer quelqu'un qui nous a fait du tort. Et on n'est plus 150, on est 400. Et on va rencontrer quelqu'un qui nous a fait du tort. Et la personne qui a fait du tort apprend qu'il y a un bon nombre qui vient à sa rencontre. Vous pensez qu'il va se sentir comment? Terrifié. Bien sûr. Ici, la Bible nous montre combien Jacob était tétanisé par ce rapport qu'il a reçu. Son message, ou bien ce chapitre qu'on est en train de lire, en le lisant ou bien en l'étudiant, pensez toujours au fils prodigue. Aussi qui était de retour, qui retournait pour voir son père, pour lui demander pardon. Ayez toujours cette image au moment où on avance ici dans ce chapitre 32 de Genèse pour voir quelques similarités qui sont là. Voilà au verset 7. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Une personne angoissée, une personne effrayée. Ça se remarque. Tu ne sais pas cacher quand tu es effrayé. Il y a des moments où il y a quelque chose qui me touche et mon épouse me dit, je vois que tu as changé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ici, la famille qui était avec Jacob, je suis sûr qu'ils ont remarqué qu'il y avait quelque chose qui ne va pas chez Jacob. Et c'est lui qui devrait prendre la décision de tout ce qui se passait. Et Jacob, comme on est en train de lire au verset 7, on nous dit, « Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui. » Ce qui est intéressant, c'est l'imagination que Jacob avait à ce moment-là. Il dit, on va partager le groupe en deux camps. Il y a un qui va aller devant, il y a l'autre qui va suivre. Si on rencontre notre frère et qu'il décime le premier, les autres, on se sauve. Voilà le plan qu'il avait. Mais, en continuant la lecture, on voit que Jacob, c'est le moment où il va vraiment se rappeler des promesses de Dieu. ce moment où il va se rappeler de tout ce que Dieu a fait. Au verset 9, Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Jacob, éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Voilà, il est en train de remémorer, de raconter les promesses que Dieu avait faites avec lui. Alors, il va commencer aussi à faire les mots de reconnaissance. Au verset 10, « Je suis très petit pour tous les grands et tous les grandes et pour toutes, pour les grâces, pardon. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé avec ton serviteur. » Voilà, il est en train de prononcer des paroles de reconnaissance. Et verset 11, délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Verset 12, et toi, tu as dit, je te ferai du bien, je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Voilà, ici il termine de prononcer les mots de reconnaissance. Après, il va faire sa préparation. Il va préparer un cadeau. Ce qui est intéressant ici, quand je lisais ce récit de Jacob, surtout le moment où il était en train de préparer le cadeau, j'ai dit, il faut relier ça avec le livre de Proverbes 18, chapitre 16, qui nous dit, quand vous allez voir la personne importante, il faut y aller avec un cadeau. Je vais peut-être lire les phrases telles qu'elles sont écrites. Verset 16. Les présents d'un homme lui élargissent les voies et lui donnent accès auprès des grands. C'est-à-dire, quand vous allez regarder quelqu'un, ou plutôt quand vous allez rencontrer quelqu'un, un homme important, il faut préparer des cadeaux. Maintenant, ici, on voit Jacob qui se prend pour un petit devant Ésaü. Et il commence à préparer un cadeau. C'est quand il préparait le cadeau, peut-être j'avance un tout petit peu, je reclairai après. Au verset 20, il dit, « Car il se disait, je l'apaiserai par son présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. » C'est-à-dire, Jacob avait bien entendu. Il savait bien qu'en préparant un cadeau, et quand j'ai regardé ce cadeau, ce n'est pas n'importe quoi comme cadeau. C'est le verset 14. Qu'est-ce qu'il va préparer? Dans sa chèvre, je ne sais pas si vous vous rendez compte le nombre de dons sans chèvre. 20 boucs. Dons sans brebis. 20 béliers. Verset 15, il continue. 30 femelles de chevaux avec les petits qui les allaitaient. 40 vaches et 10 taureaux. 20 ânes et 10 ânes. Est-ce que ce n'est pas un bon cadeau? Supposons que si on t'amène ce cadeau, tu la mettras où chez toi? Est-ce que tu es prêt pour ça? Ça, c'est un beau cadeau. Ça, c'était vraiment un beau cadeau pour apaiser le chef, parce que Ésaü était devenu un homme important. Et il est malin. La façon de. Il organise les choses aussi en trois groupes qui vont donner son cadeau. Il va prendre tout ça, tous ses brebis, tous ses ânes, tout ça, il va diviser en trois catégories. Le premier groupe, voilà le cadeau. Deuxième groupe, voilà le nombre de ce que vous allez partir avec. Troisième groupe, voilà ce que vous allez prendre avec vous pour les présenter à cet homme qui vient avec 400 hommes. Alors, il dit, si vous rencontrez mon frère Ésaü, et qu'il vous demande, ça le message qu'il donne au premier groupe, s'il vous demande, tout ça c'est pourquoi, vous dites que c'est pour le Seigneur Ésaü. Le même message est raconté au deuxième groupe. Ça, c'est pour donner au Seigneur Ésaü. Le troisième groupe, c'est le même message. C'est pour le Seigneur Ésaü. Après, ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, vous voyez la situation, vous voyez Jacob tétanisé qui prépare tout ça. Il arrive au moment où il est seul. C'est le verset 24. Le moment où il est seul, le soir, et il va faire face à la réalité. Le moment où il se pose plein de questions. Le moment où il s'imagine plein de choses. Et ce moment-là, il va rencontrer l'ange. On nous dit qu'il va lutter avec l'ange jusqu'à l'aube, jusqu'à le matin. Et Jacob, il a bien résisté jusqu'au moment où je dirais là, au moment où c'était vraiment vers le matin, l'ange dit, laisse-moi, je dois partir. Jacob dit, je ne te laisse pas. Il faut me bénir, j'ai besoin de tes bénédictions. Et l'ange va lui poser la question. Il pose la question, il dit, tu es qui? Ça, c'est une question. Quel est ton nom? C'est une question importante. Le nom signifie l'identité de la personne. Demander à quelqu'un qui se rapproche plein de choses, son identité, c'était beaucoup. Ce n'était pas facile à Jacob de répondre à sa question, mais il a dit quand même, je suis Jacob. Au verset 28, bien sûr, l'ange, il va changer son nom, il va lui dire, maintenant tu n'es plus Jacob, ton identité doit changer. Ce qui est passé, c'est passé. On démarre sur de nouveau, on démarre sur de bonnes bases. Ne te reproche pas plein de choses. Le présent, c'est le moment où, maintenant qui compte, tu n'es plus Jacob. Depuis aujourd'hui, tu es Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Voilà, il change son nom. Ici, ça me rappelle le verset qui se trouve dans le livre d'Apocalypse, chapitre 17. Là, on nous dit, celui qui vaincra je lui donnerai un nouveau nom. Je lui donnerai un caillou blanc. D'abord, et resté son caillou blanc, il y aura un nouveau nom. Qu'est-ce que le caillou blanc signifiait dans l'ancien temps? Quelqu'un qui allait au tribunal et qui était juste, pour montrer que vraiment vous êtes juste, que vous êtes justifié par le juge et que vous êtes, je dirais, vainqueur, on vous donnait un symbole, un caillou blanc. Et Jésus utilise le même mot ici. Le vainqueur, je lui donnerai un caillou blanc, et sur son caillou blanc, il y aura un nouveau nom, un nouveau changement. On est transformé, on n'est plus la même. L'ancienne identité est de côté, et une nouvelle identité que Dieu nous donne démarre à ce moment-là. Voilà ici ce que je trouve intéressant, c'est que tout ce que je, en revenant sur cette histoire de Jacob, tout ce que Jacob avait planifié est tombé dans l'eau. Il avait dit, si on rencontre mon frère Ésaü, il faut d'abord qu'on soit sûr qu'il élimine le premier groupe et le deuxième, on se sauve. Mais quand il vient de rencontrer l'ange qui va le bénir, Jacob, c'est comme s'il était apaisé. Quand on est en présence de Dieu, on est apaisé. Et c'est Jacob qui est apaisé, il n'est plus tétanisé comme avant. Quand cette histoire-là, avec un rencontre avec l'ange qui vient de le bénir, est terminée, le chapitre 33 nous dit, Jacob, à 33, verset 1, Jacob leva les yeux et regarda, et voici Ésaü arrivé, avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Et il plaça en tête les servantes avec les enfants, puis Léa avec ses enfants, et en fait Rachel avec Joseph. Verset 3. Lui-même, c'est ça qui est intéressant qu'il faut voir ici. Lui-même, passant devant eux, et il se prosterna, devant son frère, combien de fois? Ceux qui ont la Bible, vous pouvez le dire. Il se prosterna sept fois devant son frère pour montrer combien il avait changé. Et après, ce qui va suivre, c'est que Ésaü, lui, Dieu avait fait son travail. Dieu avait travaillé Ésaü, et Ésaü ne s'imaginait pas ce que Jacob pensait. Ésaü, c'était quelqu'un qui est venu pour voir un frère, parce qu'il avait été préparé par Dieu. Le travail que Dieu a fait, Jacob ne le comprenait pas. Et ce qui est intéressant ici, c'est voir comment les choses se sont succédées. Après, il y a les deux servantes avec les enfants qui viennent pour saluer Ésaü. Et il se prosterne devant Ésaü. Voilà Léa qui vient avec ses enfants. Il se prosterne devant Ésaü. Voilà Rachel et Joseph qui arrivent. Il se prosterne devant Ésaü. Tout ce groupe s'était humilié pour que vraiment un vrai rencontre puisse être, il y a, je dirais, une sorte de réconciliation efficace. Le message que je souhaite partager vraiment avec vous, c'est que quand on est en présence de Dieu, quand on présente nos soucis à Dieu, Dieu s'occupe du reste. D'une façon dont nous pouvons peut-être penser, si Jacob savait que son frère allait venir comme ça, il n'allait pas passer, il n'allait pas avoir des angoisses qu'il a eues. Mais Dieu était à l'œuvre de l'autre côté, en train de préparer son frère. C'est pourquoi ce que vraiment je peux laisser comme message aujourd'hui, c'est que nous essayons, nous faisons tout ce qui est possible pour que nous soyons vraiment en présence de Dieu partout là où nous sommes. Amen.